Daubrecq fit une pause. Il avait débité son discours avec la satisfaction visible d'un homme qui a le droit de prétendre à l'estime des amateurs les plus difficiles. Lupin se taisant, il tira sa montre.
« Plus que 23 minutes, comme le temps marche. Si ça continue, on n'aura pas le loisir de s'expliquer. »
Et s'approchant encore de Lupin,
« Tout de même, ça me fait de la peine. Je croyais Lupin un autre monsieur. Alors, au premier adversaire un peu sérieux, le colosse s'effondre. Pauvre jeune homme. Un verre d'eau pour nous remettre ?»
Lupin n'eut pas un mot, pas un geste d'agacement. Avec un flegme parfait, avec une précision de mouvement qui indiquait sa maîtrise absolue et la netteté du plan de conduite qu'il avait adopté, il écarta doucement Daubrecq, s'avança vers la table et, à son tour, saisit le cornet du téléphone. Il demanda « S'il vous plaît, mademoiselle, le 565-34. » Ayant obtenu le numéro, il dit d'une voix lente, en détachant chacune des syllabes « Allô ? Je suis rue Chateaubriand ? C'est toi, Achille ? Oui, c'est moi, le patron. Écoute-moi bien, Achille. Il faut quitter l'appartement. Allô ? Oui, tout de suite. La police doit venir d'ici quelques minutes. Mais non, ne t'effare pas, tu as le temps. Seulement fais ce que je te dis. Ta valise est toujours prête ? Parfait. Et l'un des casiers est resté vide, comme je te l'ai dit ? Parfait. Eh bien, va dans ma chambre, mets-toi face à la cheminée. De la main gauche, appuie sur la petite rosace sculptée qui orne la plaque de marbre, sur le devant, au milieu. Et de la main droite, sur le dessus de la cheminée. Tu trouveras là comme un tiroir. Et dans ce tiroir, deux cassettes. Fais attention. L'une d'elles contient tous nos papiers, l'autre des billets de banque et des bijoux. Tu les mettras toutes les deux dans le casier vide de la valise. Tu prendras la valise à la main et tu viendras à pied, très vite, jusqu'au coin de l'avenue Victor Hugo et de l'avenue de Montespan. L'auto est là avec Victoire. Je vous y rejoindrai. Quoi ? Mes vêtements, mes bibelots, laisse donc tout ça et file au plus vite. À tout à l'heure. Tranquillement, Lupin repoussa le téléphone. Il saisit Daubrecq par le bras, le fit asseoir sur une chaise voisine de la sienne et lui dit « Et maintenant, écoute-moi. »
« On se tutoie. »
« Oui, je te le permets. » Et comme Daubrecq, dont il n'avait pas lâché le bras, se dégageait avec une certaine méfiance, il prononça « Non, n'aie pas peur. On ne se battra pas. Nous n'avons rien à gagner, ni l'un ni l'autre, à nous démolir. » Un coup de couteau, pourquoi faire ? Non, non. Des mots. Rien que des mots. Mais des mots qui portent. Voici les miens. Ils sont catégoriques. Réponds de même sans réfléchir. Ça vaut mieux. L'enfant ?
Je l'ai.
Rends-le.
Non.
Madame Mergy se tuera.
Non.
Je te dis que si.
J'affirme que non.
Cependant, elle l'a déjà tenté.
C'est justement pour cela qu'elle ne le tentera plus.
Alors ?
Non.
Je m'y attendais. De même, je pensais bien, en venant ici, que tu ne couperais pas dans l'histoire du docteur Verne et qu'il me faudrait employer d'autres moyens.
Ceux de Lupin.
Tu l'as dit. J'étais résolu à me démasquer. Bon, tu l'as fait toi-même. Bravo. Mais ça ne change rien à mes projets.
Parle.
Lupin sortit d'un carnet une double feuille de papier ministre qu'il déplia et tendit à Daubrecq en disant « Voici l'inventaire exact et détaillé avec numéro d'ordre des objets qui furent enlevés par mes amis et moi dans ta villa Marie-Thérèse sur les bords du lac d'Enghien. Il y a, comme tu vois, 113 numéros. Sur ces 113 objets, il y en a 68, ceux dont les numéros sont marqués d'une croix rouge, qui ont été vendus et expédiés en Amérique. Les autres, au nombre par conséquent de 45, restent en ma possession, jusqu'à nouvel ordre. Ce sont d'ailleurs les plus beaux. Je te les offre, contre la remise immédiate de l'enfant.
Comme il faut que tu y tiennes.
Infiniment, car je suis persuadé qu'une absence plus longue de son fils, c'est la mort pour Madame Mergy.
Et cela te bouleverse, Don Juan.
Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?
Rien, rien. Une idée. Clarisse Mergy est encore jeune, jolie, brute.
Tu t'imagines que tout le monde est comme toi, sans cœur et sans pitié ? Ça te suffoque, hein, qu'un bandit de mon espèce perde son temps à jouer les Don Quichotte. Et tu te demandes quel sale motif peut bien me pousser.
Cherche pas.
C'est en dehors de ta compétence, mon bonhomme. Et réponds-moi plutôt. Acceptes-tu ?
C'est donc sérieux ?
Absolument. Les 45 objets sont dans un hangar, dont je te donnerai l'adresse, et ils te seront délivrés si tu t'y présentes ce soir à 9h avec l'enfant. La réponse de Dobrec ne faisait pas de doute. L'enlèvement du petit Jacques n'avait été pour lui qu'un moyen d'agir sur Clarisse Mergy, et peut-être aussi un avertissement qu'elle eût à cesser la guerre entreprise. Mais la menace d'un suicide devait nécessairement montrer à Dobrec qu'il faisait fausse route. En ce cas, pourquoi refuser le marché si avantageux que lui proposait Arsène Lupin ?
J'accepte.
Voici l'adresse de mon hangar. 95 rue Charles Lafitte, à Neuilly. Tu n'auras qu'à sonner.
Si j'envoie le secrétaire général Praville à ma place ?
Si tu envoies Praville, l'endroit est disposé de telle façon que je le verrai venir et que j'aurai le temps de me sauver, non sans avoir mis le feu aux bottes de foin et de paille qui entourent et qui dissimulent tes consoles, tes pendules et tes vierges gothiques.
Mais ton hangar sera brûlé.
Cela m'est égal. La police le surveille déjà. En tout état de cause, je le quitte.
Et qui m'assure que ce n'est pas un piège ?
Commence par prendre livraison de la marchandise et ne rends l'enfant qu'après. J'ai confiance, moi.
Voilà. Tu as tout prévu. Soit, tu auras le gosse, la belle Clarisse vivra et nous serons tous heureux. Maintenant, si j'ai un conseil à te donner, c'est de déguerpir et presto.
Pas encore.
Hein ?
J'ai dit pas encore.
Mais tu es fou. Praville est en route.
Il attendra. Je n'ai pas fini.
Comment, qu'est-ce qu'il te faut encore ? Clarisse aura son moutard. Ça ne te suffit pas ?
Non.
Pourquoi ?
Il reste un autre fils.
Gilbert.
Oui.
Eh bien.
Je te demande de sauver Gilbert.
Qu'est-ce que tu dis ? Moi, sauver Gilbert ?
Tu le peux. Il te suffit de quelques démarches. Dobrec, qui jusqu'ici avait gardé tout son calme, s'emporta brusquement et frappant du poing.
Non, non, ça jamais. Ne compte pas sur moi. Ah non, ce serait trop idiot.
Il s'était mis à marcher avec une agitation extrême et de son pas si bizarre qu'il balançait de droite et de gauche sur chacune de ses jambes, comme une bête sauvage, un ours à l'allure inhabile et lourde. Et la voix rauque, le masque convulsé, il s'écria
« Qu'elle vienne ici ! Qu'elle vienne implorer la grâce de son fils ! Mais qu'elle vienne sans armes et sans dessein criminel comme la dernière fois ! Qu'elle vienne en suppliant, en femme domptée, soumise et qui comprend, qui accepte ! Et alors on verra. Gilbert, la condamnation de Gilbert, l'échafaud. Mais toute ma force est là. Quoi ? Voilà plus de 20 années que j'attends mon heure. Et c'est quand elle sonne, quand le hasard m'apporte cette chance inespérée, quand je vais connaître enfin la joie de la revanche complète. Et quelle revanche! C'est maintenant que je renoncerai à cela, à cette chose que je poursuis depuis 20 ans. Je sauverai Gilbert, moi, pour rien. Pour l'honneur, moi, Daubrecq. Oh, non. Oh, tu ne m'as pas regardé.
Il riait d'un rire abominable et féroce. Visiblement, il apercevait en face de lui, à portée de sa main, la proie qu'il pourchassait depuis si longtemps. Et Lupin aussi évoqua Clarisse telle qu'il l'avait vue quelques jours auparavant, défaillante, vaincue déjà, fatalement conquise, puisque toutes les forces ennemies se liguaient contre elle. Se contenant, il dit « Écoute-moi. » Et comme Daubrecq, impatienté, se dérobait, il le prit par les deux épaules, avec cette puissance surhumaine que Daubrecq connaissait pour l'avoir éprouvée dans la baignoire du vaudeville. Et l'immobilisant, il articula « Un dernier mot. »«
Tu perds ton latin. »«
Un dernier mot. » Écoute, Daubrecq, oublie Madame Mergy. Renonce à toutes les bêtises et à toutes les imprudences que ton amour et que tes passions te font commettre. Écarte tout cela et ne pense qu'à ton intérêt.
Mon intérêt? Il est toujours d'accord avec mon amour-propre et avec ce que tu appelles mes passions.
Jusqu'ici, peut-être. Mais plus maintenant. Plus maintenant que je suis dans l'affaire. Il y a là un élément nouveau que tu négliges. C'est un tort. Gilbert est mon complice. Gilbert est mon ami. Il faut que Gilbert soit sauvé de l'échafaud. Fais cela. Use de ton influence. Et je te jure, tu entends, je te jure que nous te laisserons tranquille. Le salut de Gilbert, voilà tout. Plus de lutte à soutenir contre Madame Mergy, contre moi. Plus de pièges. Tu seras maître de te conduire à ta guise. Le salut de Gilbert, Daubrecq. Sinon la guerre. La guerre implacable. C'est-à-dire pour toi, la défaite certaine.
Ce qui signifie?
Ce qui signifie que je reprendrai la liste des 27.
Ah bah, tu crois?
Je le jure.
Ce que Braville et toute sa clique, ce que Clarisse Mergy, ce que personne n'a pu faire, tu le feras, toi.
Je le ferai.
Et pourquoi? En l'honneur de quel saint réussiras-tu où tout le monde a échoué? Il y a donc une raison?
Oui.
Laquelle?
Je m'appelle Arsène Lupin. Il avait lâché Daubrecq, mais il le maintint quelque temps sous son regard impérieux et sous la domination de sa volonté. À la fin, Daubrecq se redressa, lui tapota l'épaule à petits coups secs et, avec le même calme, la même obstination rageuse, prononça
« Moi, je m'appelle Daubrecq. Toute ma vie n'est qu'une bataille acharnée. Une suite de catastrophes et de débâcles où j'ai dépensé tant d'énergie que la victoire est venue. La victoire complète, définitive, insolente, irrémédiable. J'ai contre moi toute la police, tout le gouvernement, toute la France, le monde entier. Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche d'avoir contre moi, par-dessus le marché, Monsieur Arsène Lupin? J'irai plus loin. Plus mes ennemis sont nombreux et habiles, et plus cela m'oblige à jouer serré. Et c'est pourquoi, mon excellent monsieur, au lieu de vous faire arrêter comme je l'aurais pu, oui, comme je l'aurais pu et en toute facilité, je vous laisse le champ libre et vous rappelle charitablement qu'avant 3 minutes, il faut me débarrasser le plancher. »
Donc, c'est non.
C'est non.
Tu ne feras rien pour Gilbert?
Si.
je continuerai à faire ce que je fais depuis son arrestation, c'est-à-dire à peser indirectement sur le ministre de la Justice pour que le procès soit mené le plus activement possible et dans le sens que je désire.
Comment ? C'est à cause de toi ? C'est pour toi ?
C'est pour moi, Dobrek, mon Dieu, oui. J'ai un atout, la tête du fils. Je le joue. Quand j'aurai obtenu une bonne petite condamnation à mort contre Gilbert, quand les jours passeront et que la grâce du jeune homme sera, par mes bons offices, rejetée, tu peux être sûr, monsieur Lupin, que la maman ne verra plus du tout d'objection à s'appeler madame Alexis Dobrek et à me donner des gages irrécusables et immédiats de sa bonne volonté. Cette heureuse issue est fatale, que tu le veuilles ou non. C'est couru d'avance. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est de te prendre comme témoin le jour de mon mariage et de t'inviter au lunch. Ça te va-t-il ? Non ? Tu persistes dans tes noirs desseins. Eh bien, bonne chance. Tends tes pièges, jette tes filets, fourbis tes armes et potasse le manuel du parfait cambrioleur de papier pelure. Tu en auras besoin. Sur ce, bonsoir. Les règles de l'hospitalité écossaise m'ordonnent de te mettre à la porte. File !